Denis Diderot, La religieuse. Monsieur Manoury publia un second mémoire qui fit un peu plus d'effet. On sollicita vivement. J'offris encore à mes sœurs de leur laisser la possession entière et tranquille de la succession de mes parents. Il y eut un moment où mon procès prit le tour le plus favorable et où j'espérais la liberté. Je n'en fus que plus cruellement trompée. Mon affaire fut plaidée à l'audience et perdue. Toute la communauté en était instruite, que je l'ignorais. C'était un mouvement, un tumulte, une joie, de petits entretiens secrets, des allées, des venues chez la supérieure et des religieuses les unes chez les autres. J'étais toute tremblante. Je ne pouvais ni rester dans ma cellule ni en sortir. Pas une amie entre les bras de qui j'allasse me jeter. Oh, la cruelle matinée que celle du jugement d'un grand procès. Je voulais prier, je ne pouvais pas. Je me mettais à genoux, je me recueillais, je commençais une oraison, mais bientôt mon esprit était emporté malgré moi au milieu de mes juges. Je les voyais, j'entendais les avocats. Je m'adressais à eux, j'interrompais le mien, je trouvais ma cause mal défendue. Je ne connaissais aucun des magistrats, cependant je m'en faisais des images de toute espèce, les unes favorables, les autres sinistres, d'autres indifférentes. J'étais dans une agitation, dans un trouble d'idées qui ne se conçoit pas. Le bruit fit place à un profond silence. Les religieuses ne se parlaient plus. Il me parut qu'elles avaient au cœur la voix plus brillante qu'à l'ordinaire, du moins celle qui chantait. Les autres ne chantaient point. Au sortir de l'office, elles se retirèrent en silence. Je me persuadai que l'attente les inquiétait autant que moi. Mais l'après-midi, le bruit et le mouvement reprirent subitement de tous côtés. J'entendis des portes s'ouvrir, se refermer, des religieuses aller et venir, le murmure de personnes qui se parlent bas. Je mis l'oreille à ma serrure, mais il me parut qu'on se taisait en passant et qu'on marchait sur la pointe des pieds. Je pressentis que j'avais perdu mon procès. Je n'en doutais pas un instant. Je me mis à tourner dans ma cellule sans parler. J'étouffais. Je ne pouvais me plaindre. Je croisais mes bras sur ma tête. Je m'appuyais le front, tantôt contre un mur, tantôt contre l'autre. Je voulais me reposer sur mon lit, mais j'en étais empêchée par un battement de cœur. Il est sûr que j'entendais battre mon cœur et qu'il faisait soulever mon vêtement. J'en étais là lorsqu'on me vint dire que l'on me demandait. Je descendis. Je n'osais avancer. Celle qui m'avait averti était si gaie que je pensais que la nouvelle que l'on m'apportait ne pouvait être que fort triste. J'allais pourtant. Arrivé à la porte du parloir, je m'arrêtai tout court et je me jetai dans le recoin des deux murs. Je ne pouvais me soutenir. Cependant, j'entrai. Il n'y avait personne. J'attendis. On avait empêché celui qui m'avait fait appeler de paraître avant moi. On se doutait bien que c'était un émissaire de mon avocat. On voulait savoir ce qui se passerait entre nous. On s'était rassemblés pour entendre. Lorsqu'il se montra, j'étais assise, la tête penchée sur mon bras et appuyée contre les barreaux de la grille. « C'est de la part de Monsieur Manoury, » me dit-il. « C'est, lui répondis-je, pour m'apprendre que j'ai perdu mon procès. »« Madame, je n'en sais rien, mais il m'a donné cette lettre. Il avait l'air affligé quand il m'en a chargé, et je suis venue à toute bride, comme il me l'a recommandé. »« Donnez. » Il me tendit la lettre, et je la pris, sans me déplacer et sans le regarder. Je la posai sur mes genoux, et je demeurai comme j'étais. Cependant, cet homme me demanda « N'y a-t-il point de réponse ?»« Non, lui dis-je. Allez. » Il s'en alla. Et je gardai la même place, ne pouvant me remuer ni me résoudre à sortir. Il n'est permis, en couvent, ni d'écrire, ni de recevoir des lettres sans la permission de la supérieure. On lui remet et celle qu'on reçoit et celle qu'on écrit. Il fallait donc lui porter la mienne. Je me mis en chemin pour cela. Je crus que je n'arriverais jamais. Impatient qui sort du cachot pour aller entendre sa condamnation, ne marche ni plus lentement, ni plus abattu. Cependant, me voilà à sa porte. Les religieuses m'examinaient de loin. Elles ne voulaient rien perdre du spectacle de ma douleur et de mon humiliation. Je frappai. On ouvrit. La supérieure était avec quelques autres religieuses. Je m'en aperçus au bas de leur robe, car je n'osais jamais lever les yeux. Je lui présentai ma lettre d'une main vacillante. Elle la prit, la lut et me la rendit. Je m'en retournai dans ma cellule. Je me jetai sur mon lit, ma lettre à côté de moi, et j'y restai sans la lire, sans me lever pour aller dîner, sans faire aucun mouvement, jusqu'à l'office de l'après-midi. À 3h30, la cloche m'avertit de descendre. Il y avait déjà quelques religieuses d'arrivée. La supérieure était à l'entrée du chœur. Elle m'arrêta, m'ordonna de me mettre à genoux en dehors. Le reste de la communauté entra et la porte se ferma. Après l'office, elles sortirent toutes. Je les laissai passer. Je me levai pour les suivre la dernière. Je commençai dès ce moment à me condamner à tout ce qu'on voudrait. On venait de m'interdire l'église, je m'interdis de moi-même le réfectoire et la récréation. J'envisageais ma condition de tous les côtés et je ne voyais de ressources que dans le besoin de mes talents et dans ma soumission. Je me serais contentée de l'espèce d'oubli où l'on me laissa durant plusieurs jours. J'eus quelques visites, mais celle de M. Manoury fut la seule qu'on me permit de recevoir. Je le trouvai, en entrant au parloir, précisément comme j'étais quand je reçus son émissaire, la tête posée sur les bras et les bras appuyés contre la grille. Je le reconnus. Je ne lui dis rien. Il n'osait ni me regarder, ni me parler. « Madame, me dit-il, sans me déranger, je vous ai écrit. Vous avez lu ma lettre ?» Je l'ai reçue, mais je ne l'ai pas lue. « Vous ignorez donc ?»« Non, monsieur, je n'ignore rien. J'ai deviné mon sort et j'y suis résignée. »« Comment en eût-on avec vous ?» On ne songe pas encore à moi, mais le passé m'apprend ce que l'avenir me prépare. Je n'ai qu'une consolation. C'est que, privé de l'espérance qui me soutenait, il est impossible que je souffre autant que j'ai déjà souffert. Je mourrai. La faute que j'ai commise n'est pas de celle qu'on pardonne en religion. Je ne demande point à Dieu d'amollir le cœur de celles à la discrétion desquelles il lui plaît de m'abandonner, mais de m'accorder la force de souffrir, de me sauver du désespoir et de m'appeler à lui promptement. « Madame, me dit-il en pleurant, vous auriez été ma propre sœur, que je n'aurais pas mieux fait. » Cet homme a le cœur sensible. « Madame, ajouta-t-il, si je puis vous être utile à quelque chose, disposez de moi. Je verrai le premier président, j'en suis considéré. Je verrai les grands vicaires et l'archevêque. « Monsieur, ne voyez personne, tout est fini. »« Mais si l'on pouvait vous faire changer de maison ?»« Il y a trop d'obstacles. »« Mais quels sont donc ces obstacles ?»« Une permission difficile à obtenir, une dot nouvelle à faire ou l'ancienne à retirer de cette maison. »« Et puis, que trouverais-je dans un autre couvent ?»« Mon cœur inflexible, des supérieurs impitoyables ?» Des religieuses qui ne seront pas meilleures qu'ici, les mêmes devoirs, les mêmes peines. Il vaut mieux que j'achève ici mes jours, ils y seront plus courts. Mais madame, vous avez intéressé beaucoup d'honnêtes gens, la plupart sont opulents, on ne vous arrêtera pas ici, quand vous en sortirez sans rien emporter. Je le crois. Une religieuse qui sort ou qui meurt augmente le bien-être de celle qui reste. Mais ces honnêtes gens, ces gens opulents ne pensent plus à moi et vous les trouverez bien froids lorsqu'il s'agira de me doter à leurs dépens. Pourquoi voulez-vous qu'il soit plus facile aux gens du monde de tirer du cloître une religieuse sans vocation qu'aux personnes pieuses d'y en faire entrer une bien appelée. Dote-t-on facilement ces dernières ? Eh, monsieur, tout le monde s'est retiré depuis la perte de mon procès. Je ne vois plus personne. Madame, chargez-moi seulement de cette affaire. J'y serai plus heureux. Je ne demande rien. Je n'espère rien. Je ne m'oppose à rien. Le seul ressort qui me restait est brisé. Si je pouvais seulement me promettre que Dieu me changeât et que les qualités de l'état religieux succédassent dans mon âme à l'espérance de le quitter, que j'ai perdu, mais cela ne se peut. Ce vêtement s'est attaché à ma peau, à mes os, et ne m'en gêne que davantage. Ah, quel sort ! Être religieuse à jamais et sentir qu'on ne sera jamais que mauvaise religieuse. Passer toute sa vie à se frapper la tête contre les barreaux de sa prison. En cet endroit, je me mis à pousser des cris. Je voulais les étouffer, mais je ne pouvais. Monsieur Manoury, surpris de ce mouvement, me dit « Madame, oserais-je vous faire une question ?»« Faites, monsieur. » Une douleur aussi violente n'aurait-elle pas quelque motif secret ?« Non, monsieur. » Je hais la vie solitaire. Je sens là que je la hais. Je sens que je la haïrai toujours. Je ne saurais m'assujettir à toutes les misères qui remplissent la journée d'une recluse. C'est un tissu de puérilité que je méprise. J'y serais faite si j'avais pu m'y faire. J'ai cherché 100 fois à m'en imposer, à me briser là-dessus. Je ne saurais. J'ai envié, j'ai demandé à Dieu l'heureuse imbécilité d'esprit de mes compagnes. Je ne l'ai point obtenu. Il ne me l'accordera pas. Je fais tout mal. Je dis tout de travers. Le défaut de vocation perce dans toutes mes actions. On le voit. J'insulte à tout moment à la vie monastique. On appelle orgueil mon inaptitude. On s'occupe à m'humilier. Les fautes et les punitions se multiplient à l'infini. Et les journées se passent à mesurer des yeux la hauteur des murs. Madame, je ne saurais les abattre, mais je puis autre chose. Monsieur, ne tentez rien. Il faut changer de maison, je m'en occuperai, je viendrai vous revoir. J'espère qu'on ne vous scellera pas. Vous aurez incessamment de mes nouvelles. Soyez sûr que si vous y consentez, je réussirai à vous tirer d'ici. Si l'on en usait trop sévèrement avec vous, ne me le laissez pas ignorer. Il était tard quand M. Manoury s'en alla. Je retournai dans ma cellule. L'office du soir ne tarda pas à sonner. J'arrivai des premières. Je laissai passer les religieuses et je me tins pour dit qu'il fallait demeurer à la porte. En effet, la supérieure la ferma sur moi. Le soir, à souper, elle me fit signe en entrant de m'asseoir à terre au milieu du réfectoire. J'obéis. Et l'on ne me servit que du pain et de l'eau. J'en mangeai un peu, que j'arrosai de quelques larmes. Le lendemain, on tint conseil. Toute la communauté fut appelée à mon jugement, et l'on me condamna à être privé de récréation, à entendre pendant 1 mois l'office à la porte du cœur, à manger à terre au milieu du réfectoire, à faire amende honorable 3 jours de suite, à renouveler ma prise d'habit et mes vœux, à prendre le cilice, à jeûner de 2 jours l'un, et à me macérer après l'office du soir tous les vendredis. J'étais à genoux, le voile baissé, tandis que cette sentence m'était prononcée. Dès le lendemain, la supérieure vint dans ma cellule avec une religieuse qui portait sur son bras un cilice et cette robe d'étoffe grossière dont on m'avait revêtue lorsque je fus conduite dans le cachot. J'entendis ce que cela signifiait. Je me déshabillai, ou plutôt on m'arracha mon voile, on me dépouilla, et je pris cette robe. J'avais la tête nue, les pieds nus, mes longs cheveux tombaient sur mes épaules, et tout mon vêtement se réduisait à ce cilice que l'on me donna, à une chemise très dure, et à cette longue robe qui me prenait sous le cou et qui me descendait jusqu'aux pieds. Ce fut ainsi que je restai vêtue pendant la journée et que je comparus à tous les exercices. Le soir, lorsque je fus retiré dans ma cellule, il entendit qu'on s'en approchait en chantant les litanies. C'était toute la maison rangée sur deux lignes. On entra, je me présentai. On me passa une corde au cou. On me mit dans la main une torche allumée et une discipline dans l'autre. Une religieuse prit la corde par un bout, me tira entre les deux lignes, et la procession prit son chemin vers un petit oratoire intérieur consacré à Sainte Marie. On était venu en chantant à voix basse, on s'en retourna en silence. Quand je fus arrivé à ce petit oratoire, qui était éclairé de deux lumières, on m'ordonna de demander pardon à Dieu et à la communauté du scandale que j'avais donné. La religieuse qui me conduisait me disait tout bas ce qu'il fallait que je répétasse, et je le répétais, mot à mot. Après cela, on m'ôta la corde. On me déshabilla jusqu'à la ceinture. On me prit mes cheveux, qui étaient épars sur mes épaules. On les rejeta sur un des côtés de mon cou. On me mit dans la main droite la discipline que je portais de la main gauche, et l'on commença le miserere. Je compris ce que l'on attendait de moi, et je l'exécutai. Le miserere fini, la supérieure me fit une courte exhortation. On éteignit les lumières, les religieuses se retirèrent, et je me rhabillai. Quand je fus rentré dans ma cellule, je sentis des douleurs violentes aux pieds. J'y regardai, ils étaient tout ensanglantés des coupures de morceaux de verre que l'on avait eu là, méchanceté de répandre sur mon chemin. Je fis amende honorable de la même manière les deux jours suivants. Seulement le dernier, on ajouta un psaume au miserere. Le quatrième jour, on me rendit l'habit de religieuse, à peu près avec la même cérémonie qu'on le prend à cette solennité quand elle est publique. Le cinquième, je renouvelai mes vœux. J'accomplis pendant un mois le reste de la pénitence qu'on m'avait imposée, après quoi je rentrai à peu près dans l'ordre commun de la communauté. Je repris ma place au chœur et au réfectoire, et je vaquai à mon tour aux différentes fonctions de la maison. Mais quelle fut ma surprise lorsque je tournai les yeux sur cette jeune amie qui s'intéressait à mon sort. Elle me parut presque aussi changée que moi. Elle était d'une maigreur à effrayer. Elle avait sur son visage la pâleur de la mort, les lèvres blanches et les yeux presque éteints. « Sœur Ursule, lui dis-je tout bas, qu'avez-vous ?»« Ce que j'ai, me répondit-elle. Je vous aime et vous me le demandez. Il était temps que votre supplice finît, j'en serais morte. » Si les deux premiers jours de mon amende honorable, je n'avais pas eu les pieds blessés, c'était elle qui avait eu l'attention de balayer furtivement les corridors et de rejeter à droite et à gauche les morceaux de verre. Les jours où j'étais condamnée à jeûner au pain et à l'eau, elle se privait d'une partie de sa portion qu'elle enveloppait d'un linge blanc et qu'elle jetait dans ma cellule. On avait tiré au sort la religieuse qui me conduirait par la corde. Et le sort était tombé sur elle. Elle eut la fermeté d'aller trouver la supérieure et de lui protester qu'elle se résoudrait plutôt à mourir qu'à cette infâme et cruelle fonction. Heureusement, cette jeune fille était d'une famille considérée. Elle jouissait d'une pension forte qu'elle employait au gré de la supérieure. Et elle trouva, pour quelques livres de sucre et de café, une religieuse qui prit sa place. Je n'oserais penser que la main de Dieu se soit appesantie sur cette indigne. Elle est devenue folle et elle est enfermée. Mais la supérieure vit, gouverne, tourmente et se porte bien. Il était impossible que ma santé résistât à de si longues et de si dures épreuves. Je tombai malade. Ce fut dans cette circonstance que la sœur Ursule montra bien toute l'amitié qu'elle avait pour moi. Je lui dois la vie. Ce n'est pas un bien qu'elle me conservait, elle me le disait quelquefois elle-même. Cependant, il n'y avait sorte de service qu'elle ne me rendît les jours qu'elle était d'infirmerie. Les autres jours, je n'étais pas négligée, grâce à l'intérêt qu'elle prenait à moi et aux petites récompenses qu'elle distribuait à celles qui me veillaient, selon que j'en avais été plus ou moins satisfaite. Elle avait demandé à me garder la nuit, et la supérieure le lui avait refusé, sous prétexte qu'elle était trop délicate pour suffire à cette fatigue. Ce fut un véritable chagrin pour elle. Tous ces soins n'empêchèrent point les progrès du mal. Je fus réduite à toute extrémité. Je reçus les derniers sacrements. Quelques moments auparavant, je demandais à voir la communauté assemblée, ce qui me fut accordé. Les religieuses entourèrent mon lit. La supérieure était au milieu d'elles. Ma jeune amie occupait mon chevet et me tenait une main qu'elle arrosait de ses larmes. On présuma que j'avais quelque chose à dire, on me souleva et l'on me soutint sur mon séant à l'aide de deux oreillers. Alors, m'adressant à la supérieure, je la priai de m'accorder sa bénédiction et l'oubli des fautes que j'avais commises. Je demandai pardon à toutes mes compagnes du scandale que je leur avais donné. J'avais fait apporter à côté de moi une infinité de bagatelles, ou qui paraient ma cellule, ou qui étaient à mon usage particulier, et je priai la supérieure de me permettre d'en disposer. Elle y consentit, et je les donnai à celle qui lui avait servi de satellite lorsqu'on m'avait jeté dans le cachot. Je fis approcher la religieuse qui m'avait conduite par la corde le jour de mon amende honorable, et je lui dis en l'embrassant et en lui présentant mon rosaire et mon Christ. Chère sœur, souvenez-vous de moi dans vos prières, et soyez sûre que je ne vous oublierai pas devant Dieu. Et pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas prise dans ce moment? J'allais à lui sans inquiétude, c'était un si grand bonheur. Et qui est-ce qui peut se le promettre deux fois? Qui sait ce que je serai au dernier moment? Il faut pourtant que j'y vienne. Puisse Dieu renouveler encore mes peines et me l'accorder aussi tranquille que je l'avais. Je voyais les cieux ouverts, et ils l'étaient sans doute. Car la conscience alors ne trompe pas, et elle me promettait une félicité éternelle. Après avoir été administrée, je tombai dans une espèce de léthargie. On désespéra de moi pendant toute cette nuit. On venait de temps en temps me tâter le pouls. Je sentais des mains se promener sur mon visage. Et j'entendais différentes voix qui disaient, comme dans le lointain, « Il remonte. Son nez est froid. Elle n'ira pas à demain. Le rosaire et le Christ vous resteront. » Et une autre voix courroucée qui disait « Éloignez-vous, éloignez-vous. Laissez-la mourir en paix. Ne l'avez-vous pas assez tourmentée ?» Ce fut un moment bien doux pour moi, lorsque je sortis de cette crise et que je rouvris les yeux, de me retrouver entre les bras de mon amie. Elle ne m'avait point quittée. Elle avait passé la nuit à me secourir, à répéter les prières des agonisants, à me faire baiser le Christ et à l'approcher de ses lèvres, après l'avoir séparé des miennes. Elle crut, en me voyant ouvrir de grands yeux et pousser un profond soupir, que c'était le dernier. Et elle se mit à jeter des cris et à m'appeler son amie, à dire « Mon Dieu, ayez pitié d'elle et de moi. Mon Dieu, recevez son âme. » « Cher ami, quand vous serez devant Dieu, ressouvenez-vous de sœur Ursule. » Je la regardai en souriant tristement, en versant une larme et en lui serrant la main. Monsieur Bouvard arriva dans ce moment. C'est le médecin de la maison. Cet homme est habile à ce qu'on dit, mais il est despote, orgueilleux et dur. Il écarta mon ami avec violence. Il me tâta le pouls et la peau. Il était accompagné de la supérieure et de ses favorites. Il fit quelques questions monosyllabiques sur ce qui s'était passé. Il répondit « Elle s'en tirera ». Et regardant la supérieure, à qui ce mot ne plaisait pas, « Oui, madame, lui dit-il, elle s'en tirera. La peau est bonne, la fièvre est tombée, et la vie commence à poindre dans les yeux ». À chacun de ces mots, la joie se déployait sur le visage de mon ami, et sur celui de la supérieure et de ses compagnes, je ne sais quoi de chagrin que la contrainte dissimulait mal. « Monsieur, lui dis-je, je ne demande pas à vivre. »« Tant pis, me répondit-il. Puis il ordonna quelque chose et sortit. On dit que pendant ma léthargie, j'avais dit plusieurs fois « Chère mère, je vais donc vous joindre, je vous dirai tout. » C'était apparemment à mon ancienne supérieure que je m'adressais, je n'en doute pas. Je ne donnais son portrait à personne, je désirais de l'emporter avec moi sous la tombe. Le pronostic de M. Bouvard se vérifia. La fièvre diminua, des sueurs abondantes achevèrent de l'emporter, et l'on ne douta plus de ma guérison. Je guéris en effet, mais j'eus une convalescence très longue. Il était dit que je souffrirais dans cette maison toutes les peines qu'il est possible d'éprouver. Il y avait eu de la malignité dans ma maladie. La sœur Ursule ne m'avait presque point quittée. Lorsque je commençais à prendre des forces, les siennes se perdirent, ses digestions se dérangèrent. Elle était attaquée l'après-midi de défaillance qui durait quelquefois un quart d'heure. Dans cet état, elle était comme morte. Sa vue s'éteignait, une sueur froide lui couvrait le front et se ramassait en gouttes qui coulaient le long de ses joues. Ses bras, sans mouvement, pendaient à ses côtés. On ne la soulageait un peu qu'en la délassant et qu'en relâchant ses vêtements. Quand elle revenait de cet évanouissement, sa première idée était de me chercher à ses côtés, et elle m'y trouvait toujours. Quelquefois même, lorsqu'il lui restait un peu de sentiment et de connaissance, elle promenait sa main autour d'elle sans ouvrir les yeux. Cette action était si peu équivoque que quelques religieuses s'étant offertes à cette main qui tâtonnait, et n'en étant pas reconnues, parce qu'alors elle retombait sans mouvement, elle me disait « Sœur Suzanne, c'est à vous qu'elle en veut, approchez-vous donc !» Je me jetai à ses genoux, j'attirai sa main sur mon front, et elle y demeurait posée jusqu'à la fin de son évanouissement. Quand il était fini, elle me disait « Eh bien, sœur Suzanne, c'est moi qui m'en irai, et c'est vous qui resterez. C'est moi qui la reverrai la première, je lui parlerai de vous. Elle ne m'entendra pas sans pleurer. S'il y a des larmes amères, il en est aussi de bien douces. Et si l'on aime là-haut, pourquoi n'y pleurerait-on pas ?» Alors elle penchait sa tête sur mon cou. Elle en répandait avec abondance et elle ajoutait « Adieu, sœur Suzanne, adieu, mon amie. Qui est-ce qui partagera vos peines quand je n'y serai plus? Qui est-ce qui... Ah, chère amie, que je vous plains. Je m'en vais, je le sens, je m'en vais. Si vous étiez heureuse, combien j'aurais de regrets à mourir. » Son état m'effrayait. Je parlais à la supérieure. Je voulais qu'on la mît à l'infirmerie, qu'on la dispensât des offices et des autres exercices pénibles de la maison, qu'on appelât un médecin. Mais on me répondit toujours que ce n'était rien, que ces défaillances se passeraient toutes seules. Et la chère sœur Ursule ne demandait pas mieux que de satisfaire à ses devoirs et à suivre la vie commune. Un jour, après les matines auxquelles elle avait assisté, elle ne parut point. Je pensai qu'elle était bien mal. L'office du matin fini, je volai chez elle. Je la trouvai couchée sur son lit, tout habillée. Elle me dit « Vous voilà, chère amie. Je me doutais que vous ne tarderiez pas à venir et je vous attendais. Écoutez-moi. Que j'avais d'impatience que vous vinssiez. Ma défaillance a été si forte et si longue que j'ai cru que j'y resterais et que je ne vous reverrais plus. Tenez, voilà la clé de mon oratoire. Vous en ouvrirez l'armoire, vous enlèverez une petite planche qui sépare en deux parties le tiroir d'en bas. Vous trouverez derrière cette planche un paquet de papier. Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en séparer. Quelque danger que je courusse à les garder, et quelque douleur que je ressentisse à les lire. Hélas, ils sont presque effacés de mes larmes. Quand je ne serai plus, vous les brûlerez. » Elle était si faible et si oppressée qu'elle ne put prononcer de suite deux mots de ce discours. Elle s'arrêtait presque à chaque syllabe. Et puis elle parlait si bas que j'avais peine à l'entendre, quoique mon oreille fût presque collée sur sa bouche. Je pris la clé. Je lui montrai du doigt l'oratoire et elle me fit signe de la tête que oui. Ensuite, pressentant que j'allais la perdre et persuadée que sa maladie était une suite ou de la mienne ou de la peine qu'elle avait prise ou des soins qu'elle m'avait donnés, je me mis à pleurer et à me désoler de toute ma force. Je lui baisai le front, les yeux, le visage, les mains. Je lui demandai pardon. Cependant, elle était comme distraite. Elle ne m'entendait pas. Et une de ses mains se reposait sur mon visage et me caressait. Je crois qu'elle ne me voyait plus. Peut-être même me croyait-elle sortie, car elle m'appela. « Sœur Suzanne !» Je lui dis « Me voilà !»« Quelle heure est-il »«
Il est 11h30. »«
11h30 ? Allez vous en dîner !»« Allez, vous reviendrez tout de suite !» Le dîner sonna. Il fallut la quitter. Quand je fus à la porte, elle me rappela. Je revins. Elle fit un effort pour me présenter ses joues. Je les baisai. Elle me prit la main. Elle me la tenait serrée. Il semblait qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne pouvait me quitter. « Cependant, il le faut, » dit-elle en me lâchant. « Dieu le veut. Adieu, sœur Suzanne. Donnez-moi mon crucifix. » Je le lui mis entre les mains et je m'en allai. On était sur le point de sortir de table. Je m'adressai à la supérieure, je lui parlai, en présence de toutes les religieuses, du danger de la sœur Ursule. Je la pressai d'en juger par elle-même. « Eh bien, dit-elle, il faut la voir. » Elle y monta, accompagnée de quelques autres. Je les suivis. Elles entrèrent dans sa cellule. La pauvre sœur n'était plus. Elle était étendue sur son lit, toute vêtue, la tête inclinée sur son oreiller, la bouche entrouverte, les yeux fermés, et le Christ entre ses mains. La supérieure la regarda froidement et dit « Elle est morte. Qui l'aurait cru si proche de sa fin? C'était une excellente fille. Qu'on aille sonner pour elle et qu'on l'ensevelisse. » Je restai seule à son chevet. Je ne saurais vous peindre ma douleur. Cependant, j'enviais son sort. Je m'approchai d'elle, je lui donnai des larmes, je la baisai plusieurs fois, et je tirai le drap sur son visage, dont les traits commençaient à s'altérer. Ensuite, je songeai à exécuter ce qu'elle m'avait recommandé. Pour n'être pas interrompue dans cette occupation, j'attendis que tout le monde fût à l'office. J'ouvris l'oratoire, j'abattis la planche, et je trouvai un rouleau de papier assez considérable que je brûlai dès le soir. Cette jeune fille avait toujours été mélancolique, et je n'ai pas mémoire de l'avoir vue sourire, excepté une fois dans sa maladie. Me voilà donc seule dans cette maison, dans le monde, car je ne connaissais pas un être qui s'intéressât à moi. Je n'avais plus entendu parler de l'avocat Manoury. Je présumais ou qu'il avait été rebuté par les difficultés, ou que, distrait par des amusements ou par ses occupations, les offres de service qu'il m'avait faites étaient bien loin de sa mémoire. Et je ne lui en savais pas très mauvais gré. J'ai le caractère porté à l'indulgence. Je puis tout pardonner aux hommes, excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité. J'excusai donc l'avocat Manoury tant que je pouvais et tous ces gens du monde qui avaient montré tant de vivacité dans le cours de mon procès et pour qui je n'existais plus. Et vous-même, monsieur le marquis, lorsque nos supérieurs ecclésiastiques firent une visite dans la maison. Ils entrent, ils parcourent les cellules, ils interrogent les religieuses, ils se font rendre compte de l'administration temporelle et spirituelle. Et, selon l'esprit qu'ils apportent à leurs fonctions, ils réparent ou ils augmentent le désordre. Je revis donc l'honnête et dur monsieur Hébert, avec ses deux jeunes et compatissants acolytes. Ils se rappelèrent apparemment l'état déplorable où j'avais autrefois comparu devant eux. Leurs yeux s'humectèrent, et je remarquai sur leur visage l'attendrissement et la joie. Monsieur Hébert s'assit, me fit asseoir vis-à-vis de lui. Ses deux compagnons se tinrent debout derrière sa chaise. Leur regard était attaché sur moi.
Monsieur Hébert me dit. Eh bien, sœur Suzanne, comment en use-t-on à présent avec vous ?
Je lui répondis : Monsieur, on m'oublie.
Tant mieux.
Et c'est aussi tout ce que je souhaite, mais j'aurais une grâce importante à vous demander. C'est d'appeler ici ma mère supérieure.
Et pourquoi ?
C'est que, s'il arrive que l'on vous fasse quelque plainte d'elle, elle ne manquera de m'en accuser.
J'entends. Mais dites-moi toujours ce que vous en savez.
Monsieur, je vous supplie de la faire appeler et qu'elle entende elle-même vos questions et mes réponses.
Dites toujours.
Monsieur, vous m'allez perdre.
Non, ne craignez rien. De ce jour, vous n'êtes plus sous son autorité. Avant la fin de la semaine, vous serez transféré à Sainte-Eutrope, près d'Arpajon. Vous avez un bon ami.
Un bon ami, monsieur. Je ne m'en connais point.
C'est votre avocat.
Monsieur Manoury ?
Lui-même.
Je ne croyais pas qu'il se souvint encore de moi.
Il a vu vos sœurs. Il a vu monsieur l'archevêque, le premier président, toutes les personnes connues par leur piété. Il vous a fait une dot dans la maison que je viens de vous nommer, et vous n'avez plus qu'un moment à rester ici. Ainsi, si vous avez connaissance de quelque désordre, vous pouvez m'en instruire sans vous compromettre, et je vous l'ordonne par la sainte obéissance.
Je n'en connais point.
Quoi ? On a gardé quelques mesures avec vous depuis la perte de votre procès ?
On a cru et l'on a dû croire que j'avais commis une faute en revenant contre mes vœux, et l'on m'en a fait demander pardon à Dieu.
Mais ce sont les circonstances de ce pardon que je voudrais savoir.
Et en disant ces mots, il secouait la tête, il fronçait les sourcils. Et je conçus qu'il ne tenait qu'à moi de renvoyer à la supérieure une partie des coups de discipline qu'elle m'avait fait donner. Mais ce n'était pas mon dessein. L'archidiacre vit bien qu'il ne saurait rien de moi, et il sortit en me recommandant le secret sur ce qu'il m'avait confié de ma translation à Sainte-Eutrope d'Arpajon. Comme le bonhomme Hébert marchait seul dans le corridor, ses deux compagnons se retournèrent et me saluèrent d'un air très affectueux et très doux. Je ne sais qui ils sont, mais Dieu veuille leur conserver ce caractère tendre et miséricordieux qui est si rare dans leur état, et qui convient si fort aux dépositaires de la miséricorde de Dieu. Je croyais monsieur Hébert occupé à consoler, à interroger ou à réprimander quelque autre religieuse, lorsqu'il entra dans ma cellule, il me dit.
D'où connaissez-vous, monsieur Manoury ?
Par mon procès.
Qui est-ce qui vous l'a donné ?
C'est madame la présidente.
Il a fallu que vous conférassiez souvent avec lui dans le cours de votre affaire.
Non, monsieur, je l'ai peu vu.
Comment l'avez-vous instruit ?
Par quelques mémoires écrits de ma main.
Vous avez des copies de ces mémoires ?
Non, monsieur.
Qui est-ce qui lui remettait ses mémoires ?
Madame la présidente.
Et d'où la connaissez-vous ?
Je la connaissais par la sœur Ursule, mon amie et sa parente.
Vous avez vu monsieur Manoury depuis la perte de votre procès ?
Une fois.
C'est bien peu. Il ne vous a point écrit ?
Non, monsieur.
Vous ne lui avez point écrit ?
Non, monsieur.
Il vous apprendra sans doute ce qu'il a fait pour vous. Je vous ordonne de ne le point voir au parloir, et s'il vous écrit, soit directement, soit indirectement, de m'envoyer sa lettre sans l'ouvrir. Entendez-vous ? Sans l'ouvrir.
Oui, monsieur, et je vous obéirai.
Soit que la méfiance de monsieur Hébert me regardât, ou mon bienfaiteur, j'en fus blessé.
Monsieur Manoury vint à Longchamp dans la soirée même. Je tins parole à l'archidiacre, je refusai de lui parler. Le lendemain, il m'écrivit par son émissaire. Je reçus sa lettre et je l'envoyai sans l'ouvrir à monsieur Hébert. C'était le mardi, autant qu'il m'en souvient.
J'attendais toujours avec impatience l'effet de la promesse de l'archidiacre et des mouvements de M. Manoury. Le mercredi, le jeudi, le vendredi se passèrent sans que j'entendisse parler de rien. Combien ces journées me parurent longues. Je tremblais qu'il ne fût survenu quelque obstacle qui eût tout dérangé. Je ne recouvrais pas ma liberté, mais je changeais de prison, et c'est quelque chose. Un premier événement heureux fait germer en nous l'espérance d'un second, et c'est peut-être là l'origine du proverbe qu'un bonheur ne vient point sans un autre. Je connaissais les compagnes que je quittais, et je n'avais pas de peine à supposer que je gagnerais quelque chose à vivre avec d'autres prisonnières. Quelles qu'elles fussent, elles ne pouvaient être ni plus méchantes, ni plus mal intentionnées. Le samedi matin, sur les 9 heures, il se fit un grand mouvement dans la maison. Il faut bien peu de choses pour mettre des têtes de religieuses en l'air. On allait, on venait, on se parlait bas, les portes des dortoirs s'ouvraient et se fermaient. C'est, comme vous l'avez pu voir jusqu'ici, le signal des révolutions monastiques. J'étais seule dans ma cellule, le cœur me battait. J'écoutais à la porte, je regardais par ma fenêtre, je me démenais sans savoir ce que je faisais. Je me disais à moi-même en tressaillant de joie, « C'est moi qu'on vient chercher, tout à l'heure je n'y serai plus. » Et je ne me trompais pas. Deux figures inconnues se présentèrent à moi. C'était une religieuse et la tourière d'Arpajon. Elles m'instruisirent en un mot du sujet de leur visite. Je pris tumultueusement le petit butin qui m'appartenait. Je le jetai pêle-mêle dans le tablier de la tourière qui le mit en paquet. Je ne demandai point à voir la supérieure. La sœur Ursule n'était plus. Je ne quittai personne. Je descends, on m'ouvre les portes après avoir visité ce que j'emportais. Je monte dans un carras et me voilà parti. L'archidiacre et ses deux jeunes ecclésiastiques, Madame la présidente de et M. Manoury, s'étaient rassemblés chez la supérieure, où on les avertit de ma sortie. Chemin faisant, la religieuse m'entretint de la maison, et la tourière ajoutait, pour refrain à chaque phrase de l'éloge qu'on m'en faisait, « C'est la pure vérité !» Elle se félicitait du choix qu'on avait fait d'elle pour m'aller prendre et voulait être mon amie. En conséquence, elle me confia quelques secrets et me donna quelques conseils sur ma conduite. Ces conseils étaient apparemment à son usage, mais ils ne pouvaient être aux miens. Je ne sais si vous avez vu le couvent d'Arpajon. C'est un bâtiment carré dont un des côtés regarde sur le grand chemin et l'autre sur la campagne et les jardins. Il y avait à chaque fenêtre de la première façade une, deux ou trois religieuses. Cette seule circonstance m'en apprit sur l'ordre qui régnait dans la maison, plus que tout ce que la religieuse et sa compagne ne m'en avaient dit. On connaissait apparemment la voiture où nous étions, car en un clin d'œil, toutes ces têtes voilées disparurent, et j'arrivai à la porte de ma nouvelle prison. La supérieure vint au-devant de moi, les bras ouverts, m'embrassa, me prit par la main et me conduisit dans la salle de la communauté où quelques religieuses m'avaient devancée et où d'autres accoururent. Cette supérieure s'appelle Madame. Je ne saurais me refuser à l'envie de vous la peindre avant d'aller plus loin. C'est une petite femme toute ronde, cependant prompte et vive dans ses mouvements. Sa tête n'est jamais rassise sur ses épaules. Il y a toujours quelque chose qui cloche dans son vêtement. Sa figure est plutôt bien que mal. Ses yeux, dont l'un, c'est le droit, est plus haut et plus grand que l'autre, sont pleins de feu et distraits. Quand elle marche, elle jette ses bras en avant et en arrière. Veut-elle parler? Elle ouvre la bouche avant que d'avoir arrangé ses idées. Aussi bégaye-t-elle un peu. Est-elle assise? Elle s'agite sur son fauteuil, comme si quelque chose l'incommodait. Elle oublie toute bienséance. Elle lève sa gamme pour se frotter la peau. Elle croise ses jambes. Elle vous interroge. Vous lui répondez et elle ne vous écoute pas. Elle vous parle et elle se perd, s'arrête tout court, ne sait plus où elle en est, se fâche et vous appelle grosse bête, stupide, imbécile, si vous ne la remettez sur la voie. Elle est tantôt familière jusqu'à tutoyer, tantôt impérieuse et fière jusqu'au dédain. Ses moments de dignité sont courts. Elle est alternativement compatissante et dure. Sa figure décomposée marque tout le décousu de son esprit et toute l'inégalité de son caractère. Aussi, l'ordre et le désordre se succédaient-ils dans la maison. Il y avait des jours où tout était confondu, les pensionnaires avec les novices avec les religieuses, où l'on courait dans les chambres les unes des autres, où l'on prenait ensemble du thé, du café, du chocolat, des liqueurs, où l'office se faisait avec la célérité la plus indécente. Au milieu de ce tumulte, le visage de la supérieure change subitement. La cloche sonne. On se renferme, on se retire. Le silence le plus profond suit le bruit, les crises et le tumulte. Et l'on croirait que tout est mort subitement. Une religieuse alors manque-t-elle à la moindre chose? Elle la fait venir dans sa cellule, la traite avec dureté, lui ordonne de se déshabiller et de se donner 20 coups de discipline. La religieuse obéit, se déshabille, prend sa discipline et se macère. Mais à peine s'est-elle donné quelques coups que la supérieure, devenue compatissante, lui arrache l'instrument de pénitence, se met à pleurer, dit qu'elle est bien malheureuse d'avoir à punir. Lui baise le front, les yeux, la bouche, les épaules, la caresse, la loue. Mais qu'elle a la peau blanche et douce, le bel embonpoint, le beau cou, le beau chignon. Sœur Sainte-Augustine, mais tu es folle d'être honteuse, laisse tomber ce linge. Je suis femme et ta supérieure. Oh, la belle gorge, qu'elle est ferme. Et je ne souffrirai que cela fût déchiré par des pointes. Non, non, il n'en sera rien. Elle la baise encore, la relève, la rhabille elle-même, lui dit les choses les plus douces, la dispense des offices et la renvoie dans sa cellule. On est très mal avec ces femmes-là. On ne sait jamais ce qui leur plaira ou déplaira, ce qu'il faut éviter ou faire. Il n'y a rien de réglé. Ou l'on est servi à profusion, où l'on meurt de faim. L'économie de la maison s'embarrasse, les remontrances sont ou mal prises ou négligées. On est toujours trop près ou trop loin des supérieurs de ce caractère. Il n'y a ni vraie distance ni mesure. On passe de la disgrâce à la faveur et de la faveur à la disgrâce, sans qu'on sache pourquoi. Voulez-vous que je vous donne, dans une petite chose, un exemple général de son administration ? Deux fois l'année, elle courait de cellule en cellule et faisait jeter par les fenêtres toutes les bouteilles de liqueur qu'elle y trouvait. Et 4 jours après, elle-même en renvoyait à la plupart de ses religieuses. Voilà celle à qui j'avais fait le vœu solennel d'obéissance, car nous portons nos vœux d'une maison dans une autre. J'entrais avec elle. Elle me conduisait en me tenant embrassée par le milieu du corps. On servit une collation de fruits, de massepains et de confitures. Le grave archidiacre commença mon éloge, qu'elle interrompit par « on a eu tort, je le sais ». Le grave archidiacre voulut continuer et la supérieure l'interrompit par « comment s'en sont-elles défaites ? C'est la modestie et la douceur même, on dit qu'elle est remplie de talent ». Le grave archidiacre voulut reprendre ses derniers mots. La supérieure l'interrompit encore en me disant bas à l'oreille « Je vous aime à la folie, et quand ces pédants-là seront sortis, je ferai venir nos sœurs, et vous nous chanterez un petit air, n'est-ce pas ?» Il me prit une envie de rire. Le grave monsieur Hébert fut un peu déconcerté. Ses deux jeunes compagnons souriaient de son embarras et du mien. Cependant, monsieur Hébert revint à son caractère et à ses manières accoutumées. Lui ordonna brusquement de s'asseoir et lui imposa silence. Elle s'assit, mais elle n'était pas à son aise. Elle se tourmentait à sa place, elle se grattait la tête, elle rajustait son vêtement où il n'était pas dérangé. Elle bâillait. Et cependant, l'archidiacre pérorait sans cessement sur la maison que j'avais quittée, sur les désagréments que j'avais éprouvés, sur celle où j'entrais, sur les obligations que j'avais aux personnes qui m'avaient servi. En cet endroit, je regardai M. Manoury. Il baissa les yeux. Alors la conversation devint plus générale. Le silence pénible imposé à la supérieure cessa. Je m'approchai de M. Manoury, je le remerciai des services qu'il m'avait rendus. Je tremblais, je balbutiais, je ne savais quelle reconnaissance lui promettre. Mon trouble, mon embarras, mon attendrissement, car j'étais vraiment touchée, un mélange de larmes et de joie, toute mon action lui parla beaucoup mieux que je ne l'aurais pu le faire. Sa réponse ne fut pas plus arrangée que mon discours, il fut aussi troublé que moi. Je ne sais ce qu'il me disait, mais j'entendais qu'il serait trop récompensé s'il avait adouci la rigueur de mon sort, qu'il se ressouviendrait de ce qu'il avait fait, avec plus de plaisir encore que moi, qu'il était bien fâché que ses occupations, qu'il attachait au palais de Paris, ne lui permissent pas de visiter souvent le cloître d'Arpajon, mais qu'il espérait de M. l'archidiacre et de Mme la supérieure de s'informer de ma santé et de ma situation. L'archidiacre n'entendit pas cela. Mais la supérieure répondit « Monsieur, tant que vous voudrez, elle fera tout ce qui lui plaira. Nous tâcherons de réparer ici les chagrins qu'on lui a donnés. » Et puis, tout bas à moi, « Mon enfant, tu as donc bien souffert. Mais comment ces créatures de Longchamp ont-elles eu le courage de te maltraiter? J'ai connu ta supérieure. Nous avons été pensionnaires ensemble à Port-Royal. C'était la bête noire des autres. Nous aurons le temps de nous voir. Tu me raconteras tout cela. » Et en disant ces mots, elle prenait une de mes mains qu'elle me frappait de petits coups avec la sienne. Les jeunes ecclésiastiques me firent aussi leurs compliments. Il était tard. Monsieur Manoury prit congé de nous. L'archidiacre et ses compagnons allèrent chez monsieur seigneur d'Arpajon, où ils étaient invités, et je restai seule avec la supérieure. Mais ce ne fut pas pour longtemps. Toutes les religieuses, toutes les novices, toutes les pensionnaires accoururent pêle-mêle. En un instant, je me vis entourée d'une centaine de personnes. Je ne savais à qui répondre. C'étaient des figures de toute espèce et des propos de toute couleur. Cependant, je discernais qu'on était mécontent ni de mes réponses, ni de ma personne. Quand cette conférence importune eut duré quelque temps, et que la première curiosité eut été satisfaite, la foule diminua. La supérieure écarta le reste, et elle vint elle-même m'installer dans ma cellule. Elle m'en fit les honneurs à sa mode. Elle me montrait l'oratoire et disait « C'est là que ma petite amie priera Dieu. Je veux qu'on lui mette un coussin sur ce marchepied, afin que ses petits genoux ne soient pas blessés. Il n'y a point d'eau bénite dans ce bénitier. Cette sœur Dorothée oublie toujours quelque chose. Essayez ce fauteuil. Voyez s'il vous sera commode. » Et tout en parlant ainsi, elle m'assit, me pencha la tête sur le dossier et me baisa le front. Cependant, elle alla à la fenêtre pour s'assurer que les châssis se levaient et se baissaient facilement. À mon lit, et elle en tira et retira les rideaux pour voir s'ils fermaient bien. Elle examina les couvertures. Elles sont bonnes. Elle prit le traversin et, le faisant bouffer, elle disait « Cette chère tête sera fort bien là-dessus. Ces draps ne sont pas fins, mais ce sont ceux de la communauté. Ces matelas sont bons. » Cela fait, elle vient à moi, m'embrasse et me quitte. Pendant cette scène, je disais en moi-même « Oh, la folle créature !» Et je m'attends à de bons et de mauvais jours.